Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Qu'il est bon de pédaler les beaux jours venus sur les petites routes de campagne, sur les chemins forestiers, les bords de rivières, mais également en ville quand il existe suffisamment de pistes cyclables, voir la vie comme dans un travelling avant, sentir le vent sur sa peau, éprouver un sentiment de liberté. Mais faire du vélo peut également faire peur, cohabitation difficile voire dangereuse avec certains automobilistes, cohabitation pas toujours harmonieuse avec les piétons, peur de chuter, peur de se faire voler son vélo. Alors comment surmonter ces désagréments et prendre du plaisir sur la petite reine? Quelles sont les règles de base du bon cycliste? Quels sont les principes pour ne pas se blesser? Quels sont les bienfaits du vélo sur notre santé? Que disent d'ailleurs les dernières recherches scientifiques en la matière? Comment choisir sa monture? Faut-il rendre le port du masque, du casque, encore un lapsus, obligatoire? Éléments de réponse avec nos experts et nos passionnés de la bicyclette. N'hésitez pas à poser vos questions, à témoigner. La crise sanitaire vous a-t-elle incité à faire du vélo? Quel plaisir prenez-vous à pédaler? Pensez-vous que les pouvoirs publics en font trop ou alors pas assez pour le vélo? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli et le site France Inter. Vous pouvez l'apercevoir dans les rues de Toulouse, sur sa vieille bécane. Baptiste Beaulieu, notre médecin et romancier. Bonjour Baptiste.
Bonjour Ali.
Au menu de votre chronique.
Je vais vous parler d'un patient qui m'a ému et que le sport a sauvé.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Oh, oh bah dis donc, Lou, quelle montée là.
Ça le fait, hein.
Ah, on a perdu au moins 5 kilos chacun là.
Au moins 5. Ouh.
On a la forme, hein.
Tiens, je veux, tiens.
Hein, on est bon là, hein.
Et top là,
Lou.
Hein.
Oui.
Et... on est parti, on a là.
Oui, non, mais à cet âge-là, ça a plein d'énergie, c'est normal. Hein. Parce que nous, on a la forme quand même,
là. On a la forme.
Hein, on a une petite forme, là. Mais tu veux pas qu'on aille boire un coup, là?
Oui.
Du coup, pas facile de reprendre le vélo comme dans Un gars, une fille. Bonjour, professeur Martine Duclos, bienvenue.
Bonjour Ali.
Ravi de vous retrouver à nouveau dans cette émission. Vous êtes endocrinologue et physiologiste, responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et vous présidez l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour Ali.
Ravi de vous retrouver également. Vous êtes adjointe du directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES et vous êtes une grande passionnée de vélo. Vous trimballez d'ailleurs partout votre vélo pliable, hein, c'est ça?
C'est vrai, quand je viens au studio aussi.
Vous aussi, Eric Fotorino, vous vous baladez partout avec votre vélo pliant. Bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes l'honorable directeur et fondateur du 1 Hebdo, du MOOC Zadig et de la superbe revue Légende, avec à la une en ce moment le roi du tennis mondial, Raphaël Nadal. Bonjour Nicolas Tikhomirov.
Bonjour Ali.
Alias Monsieur Clavicule, vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe et vous avez publié chez Albin Michel Bien dans votre corps. Et nous accueillons Jérôme Sorel, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous publiez une nouvelle édition de Vélo Taf, mode d'emploi du vélo quotidien. C'est publié chez Alternative avec de très belles illustrations d'Ève Coston. C'est une bible selon l'équipe magazine. En deux mots, c'est quoi le vélo taf?
Le vélo taf, c'est se déplacer au quotidien sur des trajets contraints, c'est-à-dire aller et venir de chez soi au boulot. Mais le mot taf est un peu limitant, donc
vous n'aimez pas d'ailleurs ce mot vélo taf?
Non, parce que aller à l'université, c'est pas aller au boulot quand on est étudiant. Aller à la piscine, c'est pas aller au boulot quand on veut aller se déplacer. Donc voilà, je suis pas un grand fan de ce mot que je trouve un peu limitant, mais c'est pas grave. Il commence à être rentré dans
l'usage.
Dans l'usage, exactement.
Racontez-nous votre plaisir à faire du vélo.
Ah, on a une heure, hein, c'est ça. Au fait, c'est dingue le plaisir. Oui, d'abord on redécouvre la ville, et puis c'est surtout, si je devais le résumer, c'est au lieu d'aller du point A au point B, traverser. Au fait, on vit son itinéraire, et ouais, c'est un vrai plaisir incroyable.
Et vous, Nicolas Tikhomirov?
Mais moi, c'est pareil. Alors moi, c'est plutôt le côté nature. Moi, je suis très VTT, donc un peu de cascade en montagne. Je me casse la clavicule, je me casse des os, un peu de partout. Mais ça m'amuse, on est entre amis, on profite de la nature, c'est grandiose quoi.
Et vous, professeur Margaritis?
Ouais, sentiment de liberté, de mobilité facile aussi, en ville et à l'extérieur aussi, là, et la possibilité d'avoir une activité physique régulière est hyper agréable.
Vous aussi, vous avez ce sentiment, Eric Fotorino, d'être plongé dans un travelling avant quand vous pratiquez le vélo?
cette sensation
ah oui,
de...
J'aime bien l'idée, j'aime bien l'image cinématographique. C'est aussi une bande son d'ailleurs, hein, vélo. On entend plein de choses, on entend des bribes de musique, des bribes de conversation quand on est en ville. Mais pour moi, c'est quand même d'abord, pour moi, le mot maître du vélo, c'est on s'échappe. On s'échappe de tout, on s'échappe des autres, des contraintes. Et c'est une forme de solitude, évidemment, de respiration. C'est très important de respirer. C'est un instrument à vent. Ça nous fait vraiment respirer. Mmh. Et pour moi, c'est aussi quand même, ça a encore à voir avec l'enfance. Mmh.
Comment vous est venue cette passion du vélo, Eric Fottorino?
J'étais nul au foot et mon père voulait me faire faire du foot. On m'avait mis goal et je prenais tous les buts possibles et imaginables. Et donc j'ai commencé à pédaler du côté de La Rochelle. Donc c'est un endroit très venté, avec entre la mer et la campagne. Et j'ai aimé tout de suite cet effort en fait, parce que il y a une dimension. Je sais pas comment dire ça. Vous savez, il y avait ce Malaparte qui disait le vélo est mon squelette extérieur. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que le vélo est mon squelette extérieur. C'est-à-dire qu'il est constitutif de ce que je suis. Et ça s'est passé en un jour. Ça s'est fait au fil des kilomètres. J'ai l'impression que j'ai des milliers de kilomètres de route filigranée à ma peau, à mes muscles, à mes souvenirs. Et donc, c'est un peu tout ça, vous voyez. Et en même temps, je dis des mots, mais en fait, à vélo, on parle pas. Mmh. On est à travers. Et ça, je crois que j'ai aimé cette solitude du vélo qui m'a relié au monde.
Et vous, Jérôme Soral, comment vous est venue cette passion du vélo?
Une panne de voiture. Non, c'est vrai, c'est ça. Je me suis remis vraiment au vélo taf au quotidien, ouais. Suite à une panne de voiture. Et je devais récupérer la voiture le soir et mon concessionnaire me dit elle est pas prête. Et là je dis mais c'est pas grave, gardez-la, aucune envie de me remettre dans les embouteillages. Et puis au moment de partir, j'avais mon vieux vélo que j'avais pris. Et je dis je vais rentrer à vélo. Et il a fallu quand même un peu de temps pour me dire mais comment je fais pour aller. Avant j'y allais en voiture, donc périphérique à 86 pardon. Et il a fallu quand même que je me pose devant un itinéraire pour me dire comment je fais pour aller du bureau à chez moi, parce que on en perd tous les réflexes de traverser les villes au fait.
Professeur Martine Duclos, vous êtes une cycliste. Je vous imagine plus en course de fond.
Ah non, vous avez tort, moi je fais du VTT aussi, et je rajouterai un élément intéressant pour le vélo, parce que j'ai l'habitude de faire de la randonnée à pied, et le plus avec le vélo, c'est qu'on fait plus de grandes distances, et surtout, contrairement à la randonnée, c'est qu'on se fait plaisir en descente. Oui. Les gens qui font de la marche à pied savent que la descente, c'est pas franchement le plaisir, on aime bien monter, mais en vélo, c'est plaisir en descente, en plus.
Alors notre camarade de Télérama et de France Inter, Guillemette Dissino, nous a avoué un jour à l'antenne avoir peur de faire du vélo. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui éprouvent ce sentiment, Jérôme Sorel?
Qu'il faut y aller doucement et qu'il faut essayer et surtout ne pas se mettre de contraintes. Typiquement, si on veut commencer à aller au boulot, encore une fois, à vélo, peut-être aller au boulot le week-end quand le trafic est apaisé, et puis vraiment de prendre son temps et d'y aller petit à petit. Et on entend souvent et quand il pleut, comment tu fais? Quand il pleut, je reprends la voiture, c'est pas grave. Ou les transports en commun.
Et Guillemette Odissino m'écrit précisément ceci: ce n'est pas que je n'aime pas ce que je n'ai jamais réussi à apprendre. J'ai pris des gamelles et j'ai abandonné. Et plus on grandit, plus on craint de perdre l'équilibre.
Ce qui est vrai, mais après, encore une fois, quand on ne sait pas faire, on apprend. Donc il y a quand même des cours qui existent aujourd'hui.
Il faut dire que 6% des Français ne savent pas faire du vélo, selon une étude menée par Ville Cyclable. Et 60%, ce qui est énorme, 60% se déclarent pas suffisamment à l'aise sur un vélo pour en faire de façon quotidienne. C'est énorme, 60%.
Oui, c'est énorme. Mais encore une fois, je pense que la vraie solution, c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire, au lieu d'aller de faire des grandes distances, se dire je vais aller acheter le pain, au lieu d'y aller en voiture ou à pied, allez-y à vélo.
Il faut pratiquer, je pense, sur des petits trajets, reprendre confiance en soi. On peut pas se lancer de suite dans la circulation parisienne, donc y aller petit à petit, puis peut-être se faire accompagner. Il y a des moniteurs de cycle qui sont là et qui peuvent peut-être nous faire faire des parcours d'équilibre, essayer de prendre un petit peu en main son vélo pour se sentir plus à l'aise.
Eric Fottorino, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui ont peur de s'y mettre?
Justement, c'est comme l'écriture. Quand on veut écrire, il faut écrire. Quand on veut faire du vélo, il faut en faire. C'est vraiment la pratique. C'est l'expérience, une expérience assez sensible, le vélo. C'est-à-dire qu'on a les vibrations, on a les irrégularités de la route, on a les portières des voitures qu'il faut savoir se mettre à distance. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir d'abord une bonne position sur son vélo, pas être trop haut, pas être trop bas, avoir des bons freins qu'on a bien éprouvés avant, arrière, avoir un braquet qui soit... Il faut toujours tourner les jambes sur un vélo. Moi, je vois souvent, quand je roule dans Paris, quelquefois, je dis d'ailleurs à un cycliste que je rejoins, que je ne sais pas, je dis, ben, il faut tourner plus les jambes parce qu'ils sont plantés avec leur braquet trop grand et du coup, on n'est pas à l'aise. Et donc, je pense que déjà, quand on a une bonne position sur son vélo, on le maîtrise vraiment et il fait partie de nous. À partir du moment où il fait partie de vous, vous n'avez pas peur de vos jambes, vous n'avez pas peur de vos bras, vous n'avez pas peur d'être sur votre vélo.
Alors vous parlez de portière de voiture, Éric Fottorino, j'aimerais citer l'écrivain Paul Fournel. Chaque cycliste, même débutant, sait qu'à un moment ou à un autre de sa vie, il aura rendez-vous avec une portière de voiture. Irène Margaritis.
Oui, je voulais dire aussi que on peut penser à nos plus jeunes pour éviter d'avoir ces problèmes-là à l'âge adulte. Bon, pour nous, c'est un peu fait, après on s'y remet, mais penser de faire en sorte que les plus jeunes puissent avoir un vélo assez tôt, leur faire commencer le vélo tôt, parce que les apprentissages sont beaucoup plus stables quand on démarre une activité dans l'enfance ou à l'adolescence.
Alors Jérôme Sorel, à un moment de votre vie, vous vous remettez au vélo après une maladie. Pendant votre convalescence, pédaler a été salutaire. Alors vous terminez votre convalescence en Australie en parcourant les 1000 kilomètres qui relient Brisbane à Sydney. 12 jours à pédaler sur votre vieux vélo Shogun.
Ouais, exactement, et que j'ai ramené en France. Et c'est vrai que je suis parti en Australie, j'étais en arrêt maladie. Mon frère travaillait là-bas et il travaillait, donc moi il fallait que je m'occupe, donc je m'achète un vélo sur place et puis je ventile dans le coin et puis à un moment donné je me dis mais je vais aller à Brisbane, donc j'avais une vague connaissance sur place. Je l'appelle, je lui dis si je viens dans 15 jours avec mon vélo, tu m'accueilles? Il me dit bah oui évidemment, et donc voilà, je suis descendu. C'était un peu dur, hein. Notamment des longues traversées, 100 kilomètres sans traverser un seul village ou juste une petite station service, il fallait partir un peu tôt le matin pour éviter la chaleur.
Pourquoi ça a contribué à votre convalescence et votre remise sur pied?
Parce que je me suis rendu compte que j'étais capable, en fait, après avoir passé trois mois quasiment alité, à me lever à peine une heure par jour, et ben tout d'un coup, ouais, c'est un retour à la vie, en fait. Et c'est un peu ce que disait Eric tout à l'heure, quand il dit que le vélo, c'est une extension de son squelette, ben c'est vraiment ça.
Professeur Martine Duclos, quelles sont les bonnes raisons santé de se remettre ou de se mettre au vélo? Est-ce que ce sont les mêmes bénéfices que pour la course à pied?
Ah oui, ou que pour la marche à pied, à un élément près, on va commencer par les choses positives, bénéfices cardiovasculaires, bénéfices métaboliques, des effets aussi sur le cerveau, la dépression, l'anxiété, puis diminution de la mortalité. Rien que, il a bien été montré que si on utilise simplement son vélo pour la distance maison-travail aller-retour, vous diminuez déjà votre risque de mortalité précoce de 30%, donc c'est complètement bénéfique. La seule chose par contre sur lesquelles ça n'a pas d'effet, c'est sur la protection osseuse, en particulier chez les femmes après la ménopause. Si c'est leur seule activité physique, il faut aussi rajouter une activité qui va soit une activité au sol avec des sauts ou une activité de renforcement musculaire pour stimuler la masse osseuse. Parce que comme c'est une activité portée, effectivement l'os n'est pas stimulé. À l'inverse, c'est très très intéressant pour les gens qui peuvent pas faire de marche à pied ou de course à pied parce qu'ils ont de l'arthrose, en particulier au niveau des genoux, comme c'est une activité portée, donc on n'a pas le poids du corps sur les articulations des membres inférieurs, donc le vélo est tout à fait indiqué.
Nicolas Tikhomirov.
Absolument, je rejoins totalement Martine, c'est vrai que pour l'ostéoporose il faut mettre de l'impact, il faut mettre un peu de charge sur l'os. Après le vélo c'est une très bonne activité de transfert aussi quand on a une blessure, c'est vrai qu'en général...
C'est quoi une activité de transfert?
C'est une activité qu'on va faire à côté par exemple de son sport qui va pas mettre en contrainte la zone blessée, donc c'est vraiment moi un des sports que je recommande beaucoup à mes patients parce que c'est facile de faire du vélo et souvent ça ne fait pas mal à la zone, alors ça va dépendre de la zone évidemment. Ce qu'il faut savoir aussi que le vélo par exemple maintenant avec l'évolution avec le vélo électrique, ça peut être un formidable outil sport santé pour se remettre au sport, notamment chez les personnes en surpoids. Grâce à l'assistance électrique, on va pouvoir doser l'effort, y aller très progressivement et remettre en contrainte un petit peu tout le système cardiovasculaire, les muscles, enfin tout, vraiment tout remettre en contrainte et gérer son assistance, progresser et au fur et à mesure qu'on progresse, diminuer l'assistance et faire plus travailler nos muscles. Donc ça, c'est super intéressant.
Martine Duclos, le vélo permet de muscler ses jambes. Pourquoi est-ce important d'avoir des jambes musclées au-delà de l'aspect esthétique? Et je vois Jérôme Sorel sourire.
Oui, pour aller sur la plage.
Tout simplement parce qu'en fait, vos jambes font que c'est grâce à elles que vous n'allez pas vous casser la figure. Il est clair qu'on ne marche pas sur des tapis de marche. Hein. La rue, elle est plein d'obstacles. Il y a des trous, il y a des plantes, il y a des gens qui... Vous savez, c'est une espèce de machin bizarre qui marche la tête baissée en regardant des trucs qui s'appellent des smartphones. Enfin, en gros, 9 personnes sur 10, quoi. Donc, ouais, voire plus, voire vous, si vous vous rajoutez.
Oui.
Bon, bref. Et donc, voilà, si on a un pied qu'on n'a pas bien levé, on a tendance à partir vers l'avant. Et ce qui va vous permettre d'éviter de vous casser la figure, c'est parce que vous avez suffisamment de force dans vos jambes pour éviter de vous casser de tomber. Et puis, ça vous permet tout simplement d'aller faire vos courses, de monter une volée de marche. Voilà. Donc, ça, en gros, d'autres termes, ça vous permet d'avoir une autonomie. Donc, c'est fabuleux.
Professeur Irène Margariti, je vais vous poser une question très personnelle, les yeux dans les yeux. Est-ce que la pratique du vélo peut nous aider à perdre du poids? Et combien de temps faut-il pratiquer pour espérer perdre quelques grammes? Dites-moi la vérité, Irène Margaritis.
La même question, l'activité physique qui par miracle, par magie va faire maigrir.
Et non?
Non, en fait, non, ça marche pas comme ça.
Ah, zut.
En fait, la question de la perte du poids, qui est une question complexe, hein, ça dépend de la situation, ça dépend de la situation de départ dans laquelle on se trouve. Ce qu'on peut dire pour l'activité physique d'une façon générale, que ce soit pour le vélo ou pour d'autres activités physiques, c'est que dans une stratégie de perte de poids qui doit absolument être accompagnée par un professionnel de santé, parce que c'est pas du tout anodin, parce que pour perdre du poids, on va faire des manipulations du régime alimentaire qui peut avoir des conséquences assez sévères. Mais dans le cas où c'est accompagné, bien sûr, l'activité physique, dont le vélo, va permettre de diminuer, entre autres, la perte de masse musculaire qui est liée très souvent à la perte de poids. On pense que quand on perd du poids, on perd surtout de la masse grasse, mais on va aussi chercher beaucoup dans la masse musculaire, ce qui est un problème.
Moi qui rêvais d'avoir
la
silhouette d'Éric Fotorino, bon, ben c'est raté. Ou votre silhouette, Irène Margaritis. Professeur Martine Duclos, de quelle façon le vélo permet-il d'améliorer nos capacités cognitive et notre mémoire en particulier, d'après une étude de l'université néerlandaise de Nijmegen menée sur 72 personnes, la pratique du vélo améliorerait la mémoire?
Tout simplement parce que qu'en fait, vous faites du vélo, vous faites travailler vos muscles et vos muscles produisent des hormones qu'on appelle les myokines et ces hormones ont des sites d'action qui sont tous les tissus, l'os, le cœur, le poumon et le cerveau. En fait, ils fabriquent des facteurs de croissance nerveux qui vont induire en fait une multiplication des neurones dans les zones du cerveau où les neurones se multiplient encore après la naissance, et dans les zones où ça se multiplie pas, en fait, ça va augmenter le nombre des synapses, donc des connexions entre les neurones et la durée de vie de ces synapses. Donc vous comprenez bien que dans les zones impliquées dans les mémoires, dans la mémoire, eh bien ça va augmenter la durée de vie des informations, et donc ceci explique que ça augmente mieux, vous avez une meilleure mémoire, mais vous avez aussi des capacités cognitives qui sont meilleures, ce qui fait que votre vieillissement cognitif physiologique va être bien meilleur chez les personnes qui font du vélo régulièrement par rapport à ceux qui n'en font pas.
Petite précision tout de même, professeur Duclos, toutes les activités physiques régulières semblent avoir un effet bénéfique sur les capacités cognitives et sur la mémoire.
Absolument. Absolument.
Et Éric Fotorino, d'ailleurs, quand vous pédalez, vous dites que vos neurones sont aérés.
Oui, ben c'est vrai que ayant une activité quand même très souvent cérébrale, écrire, lire, faire des journaux, écrire des romans, enfin tout ça c'est quand même quelque chose qui se fait dans un bureau ou dans un train ou quand vous êtes immobile. Et à partir de là, pour moi le vélo c'est aller aérer effectivement cette tête qui est toujours un peu en prise. Et ce qui est assez extraordinaire, je l'ai constaté très très souvent, lorsque j'étais bloqué sur quelque chose, que je ne trouvais pas une solution d'une page à écrire, de quelque chose de cet ordre-là, 3 heures de vélo, et je revenais, et comme par enchantement, et je ne veux même pas savoir pourquoi d'ailleurs, mais l'obstacle était tombé, j'envisageais les choses un peu différemment, et je pouvais écrire ce que je n'avais pas à écrire, sur lequel je butais depuis il y a des heures et quelquefois des jours.
Alors vous êtes écrivain également, Eric Fottorino, ça me permet de saluer les membres du jury du Livre Inter avec nous en régie et puis en studio également, Aurore d'Écosse et Isabelle de Montmorency qui peuvent intervenir à leur guise. Dans quelques instants, comment choisir le bon vélo quand on a décidé de s'y remettre? Ce sera juste après avoir écouté Eurythmics Sweet Dreams à 10h26. Sweet Dreams rappelle des booms des années 80 pour Claire Destacan, notre réalisatrice.
La pureté, la clarté, l'énergie du propre.
Grand bien vous fasse.
La force, le courage, la volonté, ça, c'est le vélo.
Ali Rebéi.
Il y a l'homme et le cycliste, qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo.
Sur France Inter.
Comment bien se mettre ou se remettre au vélo? Élément de réponse avec nos experts et nos passionnés de la petite reine. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Le vélo, c'est la santé. La preuve avec Robert Marchand qui fêtait ses 100 ans en 2011.
Mon principal plaisir maintenant, c'est de faire du vélo. C'est ma passion. J'ai commencé le vélo en 1925. Ben, j'avais 14 ans. Et ma première course, c'était le circuit de l'Ourcq. Et comme j'avais pas 15 ans, j'avais pas le droit de courir, j'ai couru sous un faux nom. Je me vois pas être toute la journée à la télévision ou des trucs comme ça. Nous, on préfère faire du vélo que d'aller au cinéma, mettons. Voilà. Je ferai du vélo jusqu'à temps que je pourrai.
formidable Robert Marchand, décédé en 2021. Dans sa 110e année, Jérôme Sorel, vous publiez Vélotaf. Vous vous voyez faire du vélo jusqu'à 110 ans?
Alors, je me le souhaite, ouais.
Oui, je vous le souhaite aussi. Tiens, professeur Martine Duclos, on parlait des effets du vélo sur la santé. Est-ce que ces effets perdurent quand on est confronté à la pollution atmosphérique parce qu'on en prend plein le nez quand on est cycliste?
Ah oui, alors là on a des études très claires. Alors d'abord, l'endroit où en fait en ville où on reçoit le plus de pollution, c'est à l'intérieur de la voiture. Mmh. On est plus pollué quand on est prisonnier à l'intérieur de sa voiture que quand on fait du vélo ou quand on marche. La deuxième chose, il y a des études qui ont été réalisées sur avec un suivi de 5 à 10 ans qui ont comparé la pollution dans des villes très polluées comme des villes chinoises ou indiennes et qui ont montré qu'il était beaucoup plus dangereux en termes de mortalité de rester chez soi les jours où la pollution était très élevée par rapport au fait de prendre quand même son vélo pour aller au travail. C'est-à-dire qu'en fait, la mortalité, vous diminuez votre risque de mortalité précoce, même si vous prenez votre vélo pour aller au travail quand c'est pollué, par rapport au fait de décider soit de rester chez soi, soit de prendre les transports en commun.
Bonjour Agnès, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez d'Appy dans la Somme. Alors vous êtes une adepte du vélo quotidiennement pour vous rendre à votre travail ou même pour les petits déplacements, pour faire vos courses et autres?
Moi j'appelle de Bayonne.
Ah ben alors j'ai pas la bonne fiche, mais j'ai pas la bonne fiche. Alors on va avoir Agnès, on va avoir Agnès juste après vous, parce que moi j'ai pas la bonne fiche. Donc racontez-nous votre rapport au vélo alors.
Le vélo c'est tous les jours. J'ai arrêté la voiture en fait. Je me servais de la voiture quand je faisais des déplacements et depuis que j'ai fini les déplacements, en fait de toute façon j'ai toujours fait du vélo. Et là, depuis que j'arrête les déplacements, je travaille à moins de 10 kilomètres. Honnêtement, c'est inutile d'avoir une voiture. Après, j'habite un petit peu en ville, à Bayonne, au quartier Marac, c'est un petit peu isolé, mais j'ai tout de quoi faire avec le vélo. Et je fais tout avec le vélo.
Quel bénéfice constatez-vous sur vous et quels sont les plaisirs que vous éprouvez au quotidien?
Mais le plaisir, c'est d'arriver le matin au travail en étant en forme, déjà. C'est quelque chose, c'est intrinsèque. Je vois, il y a beaucoup de mes collègues qui vont au travail, qui font moins de 5 kilomètres et qui prennent leur voiture, et qui arrivent, fatigués et tout. Alors moi, j'arrive, je fais 10 kilomètres, mais c'est quelque chose, la petite reine, pas comprendre si vous n'en faisiez pas, si vous n'en faites pas tous les jours.
Vous avez bien raison. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé, Jérôme Sorel, et on va essayer de retrouver Agnès. Jérôme Sorel, vous publiez donc Vélotaf. Dans un instant, vous allez nous aider à choisir le bon vélo. Mais quelles sont les mauvaises raisons de ne pas s'y mettre ou de s'y remettre? Les mauvaises raisons qu'on se met dans la tête?
Souvent, c'est tout ça, c'est que des peurs. Au fait, la peur d'avoir mal aux fesses, par exemple. Ouais. Et oui, au début, on aura mal aux fesses, il faut le dire.
Nicolas Tikhomirov, kiné ostéopathe.
Il faut faire des adaptations sur ses tissus au niveau de ses fesses. Donc il faut mettre ses fesses sur la selle, voire même on peut mettre des gels, on peut mettre des petites protections pour que ce soit moins douloureux.
Mais c'est vrai. Quand je m'y suis mis, tout le monde me disait mais comment tu fais, t'as pas mal aux fesses.
Faut pas dire autre chose.
Si, oui, mais c'est passé.
Ouais. Puis certains ne veulent pas arriver en âge au boulot avec la mauvaise...
C'est mieux d'avoir une douche au boulot.
Oui, exactement, avec la mauvaise...
C'est un peu ce que disait Eric Fottorino tout à l'heure. Si on apprend à mouliner et à tourner les jambes rapidement, enfin, tourner les jambes plutôt que forcer...
Ça dépend si on a une côte ou si jamais c'est du plat, quoi.
Élever un peu le rythme avant d'arriver au bureau.
Vos conseils, tiens, Eric Fottorino, pour ne pas arriver en âge, en sueur, au bureau ou à un rendez-vous
Vous savez, moi quand je viens vous voir à la maison de la radio, j'ai toujours un sas de 10 minutes parce que j'arrive quand même dégoulinant, pour être honnête.
C'est vrai.
Mais si vous voulez, d'abord faut pas avoir peur de la sueur, c'est comme la pluie. C'est naturel, vous voyez. Je pense que si on a une petite serviette dans son sac à dos, comme c'est mon cas, ça permet de s'éponger un peu, mais on faut pas s'empêcher de respirer, ce serait absurde, d'ailleurs on peut pas. Pédaler, effectivement, ne pas pédaler en force, beaucoup bien respirer. Je crois que la respiration, c'est vraiment très important. Et puis, les bons braquets, voilà. Je pense que après, franchement, transpirer, pour moi, imaginez qu'on pourrait faire vélo et ne pas transpirer, ce serait quand même bizarre.
Un peu bizarre, alors, effectivement.
Toucher tous les pores de la peau, mais enfin, c'est quand même un peu... Un peu compliqué.
Jérôme Sorel, que dire à ceux qui ne veulent pas faire de vélo par peur qu'on le leur vole? Alors c'est une peur assez légitime. En 2020, 500 000 vélos ont été déclarés volés.
On peut penser qu'il y en a le double, donc.
Certainement. À quoi ressemble un bon antivol?
Alors, un bon antivol, c'est plutôt un U. C'est souvent un peu lourd, donc on va mettre beaucoup d'argent pour s'acheter un vélo pas lourd, et on va rajouter 2 kilos de U. Et après, c'est aussi s'assurer que le vélo soit bien attaché à un point fixe. Il y a plein d'arceaux vélo aujourd'hui dans nos villes. Il y a des barrières, il y a des arbres. Alors après, je suis pas en train de recommander d'attacher son vélo n'importe où, mais l'attacher à un point fixe, c'est hyper important.
L'une des solutions, c'est également le vélo pliant.
Oui, le vélo pliant, c'est extraordinaire. On le glisse dans le train, on le glisse dans le métro, on le glisse n'importe où, et puis c'est comme un petit équel qui attend au pied de son bureau, sans l'odeur.
Professeur Irène Margaritis de l'ANSES, grande cycliste, vous possédez un vélo pliant, hein.
Ouais, le vélo de ville est un vélo pliant, justement pour ces raisons-là, parce que finalement, c'est un petit investissement supplémentaire, mais on s'y retrouve parce que pas de vol. Pas de vol, et il nous suit partout. Et effectivement, quand on veut faire un peu d'intermodalité, on peut le mettre dans le train.
Ou c'est quoi ça, l'intermodalité?
L'intermodalité, c'est... Pardon, allez-y.
C'est passer d'un mode de déplacement à un autre, ce qui est l'avantage du vélo, puisqu'on peut se déplacer de façon active et assez efficace quand même, hein, parce que c'est l'intérêt du vélo par rapport à la marche ou à la course, justement, ce qu'on peut se déplacer et puis aller prendre le RER ou aller prendre le train, et puis ressortir avec son vélo, le déplier, et puis repartir et continuer avec le vélo.
C'est une raison de s'y mettre, Jérôme Sorel, de se mettre au vélo, ce sont les raisons écologiques. C'est un peu comme Lucky Mouille, hein. Le vélo, c'est un transport écologique par essence.
Oui, alors après, quand j'ai écrit ce livre, j'ai fait une enquête auprès de mes copains et les copains de copains. Et en fait,
grande enquête.
Scientifique. mais il y a 4 grandes raisons pour lesquelles on se met au vélo. Il y a effectivement la raison écologique, il y a la raison économique, c'est pas très cher. La raison pragmatique, c'est le meilleur moyen pour se déplacer, pour aller du point A au point B. Et enfin, la raison sport-santé, ce qu'on évoquait un peu en début d'émission.
Alors Marianne nous écrit pour nous dire qu'elle n'arrive pas à se mettre au vélo par peur des chutes. Alors j'aimerais rassurer Marianne, mais les chutes sont inévitables.
Oui, à mon sens, oui, elles le sont.
Nicolas,
absolument, ça fait partie du risque du vélo, d'où l'intérêt de bien se protéger. Alors on va peut-être parler du casque, mais il n'y a pas que le casque en fait dans les protections. Les gants sont intéressants. On a des nouvelles matières qui s'appellent le D3O qui permet de, c'est des matières très légères et à l'impact ça se durcit. On peut mettre ça au niveau une coque, au niveau du dos, ça peut être bien parce que il faut aussi protéger sa colonne vertébrale, parce que s'il y a lésion au niveau de la colonne vertébrale, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc voilà, des genouillères, des coudières, on peut se mettre une combinaison totale de protection, et puis là, quand on tombe, on sent presque plus rien.
Jérôme Sorel, plus sérieusement, il faut accepter psychologiquement que l'on va un jour ou l'autre chuter. Comment faire pour que la chute arrive rarement et soit sans trop de dommages pour soi et pour son vélo? Quels sont vos commandements?
Mon commandement, c'est d'abord d'avoir un vélo en bon état, donc avec des freins qui fonctionnent, avec des pneus qui sont bien gonflés.
Paraît évident, dit comme ça.
Oui, mais quand on regarde nos concitoyens dans nos villes à vélo, le nombre de fois, alors je me retiens de le dire parce que je suis pas là pour donner des leçons, mais le nombre de fois où le vélo grince, les pneus sont pas gonflés, les freins, c'est catastrophique.
Faire une révision chez son vélo 6, quoi, tout simplement.
C'est le premier point. Et ensuite, c'est un peu ce que je disais en début d'émission, prenez votre temps, c'est pas une course. Le vélo est ultra efficace pour se déplacer en ville ou même en dehors des villes. Prenez votre temps, il n'y a pas de stress. Et anticipez et soyez concentrés.
Respectez le code de la route, être vu et entendu, ça c'est très important ça.
Ouais, être vu, ça veut dire mettre des lumières, même si même le jour, pourquoi pas rouler avec des lumières le jour.
Et se mettre aussi, ça peut paraître contre-intuitif, au milieu de la voie.
Oui, parce qu'au fait, ce que je fais souvent moi, quand je suis sur une voie qui est un peu serrée, où bah, en gros, si on me dépasse, je suis coincé entre la portière du taxi qui va ouvrir et la voiture, bah, en fait, je me mets au milieu et je fais un petit signe à l'automobiliste derrière, du type, je sais que t'es derrière moi, attends juste que je puisse te laisser passer, et au fait, ça se passe quand même relativement bien. À titre personnel.
Être concentré sur ce que l'on fait, il faut être à l'écoute de son environnement et ne surtout pas écouter de musique. Moi, je vois encore beaucoup trop de cyclistes avec des écouteurs à écouter de la musique et peut-être Grand Main vous fasse, pourquoi pas, mais c'est interdit.
C'est interdit et c'est le seul conseil moi que je donne à mes copains ou mon entourage qui veut se mettre au vélo, c'est pose ton téléphone, mets-le en mode avion le temps de ton trajet, tu en profiteras bien plus. Pour le sujet du casque, je leur dis, ils font comme vous faites comme vous voulez.
Dire justement à ce sujet, pourquoi c'est disputé et discuté cette histoire du port du casque?
Parce que
vous défendez dans votre livre plutôt le port du casque, non pas obligatoirement, mais vous le préconisez. Pourquoi certains ne veulent pas en entendre parler?
Parce que c'est décaler la responsabilité de la puissance publique à l'usager. Et que le port du casque, on le sait par ailleurs quand c'est obligatoire, en fait ça fait diminuer l'usage du vélo et c'est un peu le contraire de l'objectif en fait.
Éric Fotorino.
Alors moi j'ai couru à vélo quand j'étais jeune et on avait le casque obligatoire dans les courses et j'ai quelques copains qui se sont fait mal quelquefois même avec un casque quand ils ont pris un coin de trottoir ou ils ont pris un pare-choc de voiture. Donc évidemment quand on a fait du vélo en compétition, on comprend que un casque c'est quand même, ça peut vous sauver la vie, une tête on n'en a qu'une. Après moi c'est vrai que je suis pas un très bon citoyen de ce point de vue-là parce que c'est variable. Quelquefois je mets le casque parce que je sais que je vais dans un milieu urbain qui peut être dangereux. Quand je vais me balader sur les routes de campagne vers chez moi, qui fait beau, j'ai tendance à prendre une casquette et à pas mettre nécessairement de casque. Mais je pense qu'effectivement, je crois que la raison voudrait que le casque soit obligatoire, d'autant que sur ce casque, on peut mettre une lumière. Vous voyez, maintenant, moi, j'ai un casque de ville. Il est éclairé au dos, il y a une petite loupiote, donc ce qui fait qu'on vous voit, on vous protège la tête et en même temps on vous voit. Donc je pense que c'est important. Mais je voulais dire aussi tout à l'heure, parce que vous avez parlé des chutes, moi quand j'avais 14-15 ans, j'ai eu une école extraordinaire, c'était l'école du vélodrome, donc j'ai appris à rouler avec des vélos à pignon fixe et sans frein, et notre entraîneur nous apprenait à toucher la roue des autres. Avec notre roue avant, toucher la roue arrière, et il nous a appris à tomber aussi. Alors c'était une pelouse, hein, le bord du vélo, c'était une pelouse, mais on s'est appris à tomber, et finalement on avait beaucoup moins peur de tomber parce que précisément on savait comment on roulait. Alors évidemment une chute, souvent c'est par surprise, mais malgré tout, si vous avez un peu appris à tomber, à savoir où vous mettez vos mains, avoir des gants rembourrés qui fait que vos paumes ne vont pas être blessées, tout ça c'est des petits trucs, mais en même temps ça fait quand même la différence quand vous êtes dans un contexte surprenant qui tout d'un coup va vous jeter au sol.
Jérôme Sorel, une chose très très importante du point de vue de la sécurité, c'est de ne jamais jamais doubler sur la droite un camion, un bus, une camionnette. Ça c'est fondamental.
C'est fondamental, ils ont un angle mort énorme, ils vous voient pas et ils vont vous coincer et vous allez passer sous les roues, donc restez derrière ou doublez-les par la gauche, mais jamais, jamais, jamais par la droite.
Beaucoup de questions qui vont dans le même sens, comment choisir son vélo, Jérôme Sorel, question très difficile, tant l'offre est énorme. Quelles sont les grandes questions à se poser avant de choisir son vélo?
Je pense que le premier, là, d'abord c'est d'avoir un vélo à sa taille, ensuite est-ce que c'est un vélo à 6?
Qu'est-ce que ça veut dire avoir un vélo à sa taille?
Ça, il faut aller chez un vélociste. Ouais. Mais après, on peut régler le vélo avec la hauteur de la sortie de selle, la longueur de la potence, etc., etc.
Mais comment régler le vélo à la bonne taille? C'est pas quand les deux pieds touchent par terre à plat, hein?
Non. C'est pas comme la marche.
Ouais.
La bonne taille sur un vélo classique, c'est quand on met la pédale en bas et qu'on a le genou presque en extension, mais pas tout à fait.
30 degrés, on dit. 30 voilà. degrés, c'est une légère flexion du genou.
Exactement, une légère flexion. Et après, choisir son vélo. Déjà, moi, je pense qu'il faut prendre un vélo qui nous plaît.
Un beau vélo.
Pas forcément un vélo qui nous plaît. Ouais. Un vélo sur lequel on se dit, ah bah tiens, celui-là, ça va être un compagnon de route, on va passer du temps dessus. Donc autant prendre un vélo sur lequel on est content, on est fier, ou peu importe, mais un vélo qui nous plaît. Et après, les questions de poids, de matière, de dessin, de géométrie, etc., c'est vraiment très personnel.
Lui, son vélo est sans assistance électrique et il pédale fort dans les rues de Toulouse. Baptiste Beaulieu, notre médecin et romancier, est prêt pour sa chronique à 10h45.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, la semaine dernière, le thème de l'émission était « Comment se remettre à la course à pied ?» Je vous ai parlé de vélo. Aujourd'hui, le thème de l'émission étant « Comment se remettre au vélo ?» Je vais en toute logique vous parler de course à pied.
C'est logique.
Il y a quelques années, je me suis occupé de ce patient qui s'appelait Antoine. La cinquantaine, le corps bien abîmé. D'ailleurs, cet homme, c'était tout qui était abîmé chez lui. Je me souviens de sa peau dans un sale état, une grosse dépendance à tout un tas de produits avec ça. Et Ali, j'ai jamais trop su ce qui s'était passé dans sa vie pour qu'il en arrive là, ni la quantité de douleur qu'il faut pour qu'une déchéance pareille s'installe aussi profondément. Mais malgré toutes les douleurs et l'adversité, malgré toutes ses addictions, il y avait un truc qui le passionnait, Antoine, c'était la marche et la course à pied. Il arrivait toujours au cabinet en short, qu'il pleuve ou qu'il neige, avec ses tennis et ses chaussettes qui montaient sur le mollet. Il venait en courant, il repartait en courant. Et la course à pied, c'était sa vie. Il dormait très peu et rien le réveillait. Il avait des douleurs dans les jambes, des fourmis, un vélo dans la tête. Alors quand l'angoisse était trop forte, quand la peur du vide, du néant et du noir lui mordait le cœur avec trop de violence, eh bien Antoine, il enfilait son short, ses tennis et ses grosses chaussettes blanches, puis il partait courir à 2h du matin ou à 3h du matin. Il courait. Et c'était bizarre parce que il avait toujours peur d'être un peu trop loin de chez lui et de se perdre, même si c'est ça qui est chouette quand on court ou quand on fait du vélo, j'imagine, c'est de se perdre un peu. Alors, il courait, Antoine, oui, mais juste, il faisait le tour du quartier. Pas plus, il s'éloignait jamais trop, il tournait en rond comme un hamster dans une boule à furet. Il marchait, courir, c'était son moyen à lui d'échapper à quelque chose, Antoine, de pas se foutre en l'air. Et moi, je le voyais arriver au cabinet médical avec des ampoules sur les pieds, les orteils en sang. Je lui donnais de quoi se désinfecter parce que, Antoine, il faut que tu prennes soin de tes pieds, sinon comment tu vas faire pour courir? Et moi, je savais, Ali, que s'il ne pouvait plus courir, il abandonnerait la partie, Antoine. Alors, c'était fondamental de bien s'occuper de ses pieds, vous voyez, question de vie ou de mort, quoi. Même que j'ai jamais su quelle était sa profession dans la vie, je crois que j'ai écrit sur l'ordinateur sous l'onglet « Activité professionnelle » « marcheur » parce que ça sonnait mieux que « coureur ». Moi, ça me faisait bizarre de me dire, il y a parfois la nuit, quand je dors, un homme dans ma ville qui marche et qui court pour faire je sais quoi, pour ne pas mourir, je sais pas. La marche, ça peut sauver la vie ou en tout cas faire reculer la mort. Même qu'il faisait de la compétition, Antoine, des marathons et qu'il gagnait de temps en temps. Il revenait au cabinet médical avec sa médaille, il me l'a montré, il était fier. Je crois qu'il n'avait jamais rien gagné d'autre dans la vie que ses médailles. Tout ça pour dire quoi, Ali? Que le sport, on peut en faire quand on n'a rien parce qu'il suffit d'avoir un corps et c'est tout. Ça peut apporter beaucoup. Il y a même des personnes, j'en suis sûr, à qui ça a sauvé la vie. Et moi, je le sais, je l'ai vu, j'en ai soigné une.
Votre regard, professeur Martine Duclos, je rappelle que vous êtes la chef du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand.
Ah oui, bah écoutez, c'est une belle histoire et je crois que effectivement, quand ça va pas, moi je dis la première chose c'est d'aller dehors, déjà de sortir. Souvent le milieu intérieur c'est celui où on rumine, où on va pas bien, et déjà ce besoin de nature. Et après effectivement mettre son corps en action, on produit plein de choses. Et je crois que c'est aussi un moyen de brûler les mauvaises idées, de brûler les angoisses. Bon, parce que on produit des hormones qui vont aussi donner une impression de bien-être. Et puis moi, on parlait de la sueur, la transpiration. Une fois qu'on a transpiré, on se sent bien. Voilà, c'est on a chaud, on a transpiré, trempé, ça fait du bien. Et en plus, si on court sous la pluie, on rentre, quand on a chaud, non mais c'est un ensemble de choses.
Je suis d'accord avec vous, professeur Duclos.
Tellement artificielle, on a une vie tellement artificielle, voilà, que refaire bouger ses muscles, aller dehors, respirer. Quand il fait très tôt le matin, c'est fabuleux d'être dehors quand tout le monde dort. On a l'impression qu'on vit. Voilà, donc c'est des ensembles, un faisceau de choses qui font que ben voilà, on vit pour de bon.
La chronique de Baptiste Beaulieu a podcasté, à réécouter sur le site et l'appli France Inter et à partager sur les réseaux sociaux. Dans un instant, nos invités vont vous donner encore plus envie de transpirer et de vous remettre en selle. Ce sera juste après Alexia Grédy qui interprète Drôle d'idée.
Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux. Oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée. Comment nous sommes c'est un grand geste croisé. Je suis bien trop sentimentale pour ce grand frisson plein été. Je suis bien trop sentimentale pour avoir déjà oublié.
Alexia Grédy interprétait Drôle d'idée.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Comment bien se mettre ou se remettre au vélo, c'est notre question ce matin. Et beaucoup, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Nathalie qui nous dit « Je suis cycliste depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 52. Je suis ravie de cette liberté. Mais je me demande pourquoi les cyclistes sont devenus si agressifs, se sentent prioritaires sur les piétons et ne veulent pas faire d'efforts pour que ça aille bien. Pareil, du côté de Patricia, je suis une piétonne en ville et les vélos ne respectent jamais leur propre code de la route lorsque c'est au tour des piétons de s'avancer. Voilà. Pareil pour Docha qui nous écrit cycliste à Paris depuis 40 ans, je n'ose plus prendre mon vélo depuis 2 ans vu les incivilités, le manque de respect du code de la route. Jérôme Sorel, auteur de Vélo Taf, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tous ces auditeurs en colère?
Moi, j'ai deux choses. D'abord, effectivement, c'est ce que je disais, quand on est à vélo, prenons notre temps. Après, oui, je suis assez d'accord avec ça, avec ce constat de...
Comment vous l'expliquez?
C'est sûrement des anciens automobilistes.
Non, mais c'est vrai, dans Paris, moi, je vois très souvent des cyclistes qui utilisent leur sonnette de façon à la fois intempestive et très agressive.
C'est pas une question qu'ils veulent pas être, ils veulent peut-être pas être ralentis, parce que à chaque fois, à vélo, c'est coûteux de s'arrêter, bien de sûr. Relancer la machine. Ouais. Est-ce que ça ne viendrait pas de là?
Je pense qu'il y a un peu de ça, et après, c'est ce qui est sûr aussi, c'est que je pense qu'il y a un moment de transition. Il y a pas très longtemps, j'étais à Strasbourg, où la ville est très en avance par rapport à, je pense, toutes les villes de France, et la cohabitation se fait. Les piétons, quand il y a un cycliste derrière, ils font attention, ils regardent, ils se poussent un peu pour laisser passer le cycliste. Les automobilistes, quand il y a un cycliste qui arrive, ils marquent un ralentissement pour montrer que le cycliste peut passer. Donc je pense que c'est vraiment une question d'ajustement et que ça va prendre un peu de temps. Et une ville comme Paris, alors là on est à Paris, mais une ville comme Paris est très particulière, je pense, c'est très dense. Et ce qui aussi probablement rend le cycliste intempestif, c'est qu'il est silencieux, donc on l'entend pas venir par rapport à une voiture ou une moto qui sont intégrés dans le paysage. Et le cycliste doit être intégré aujourd'hui.
Il n'y a pas que Paris, Nicolas Tikhomirov, vous venez d'Aix-en-Provence, vous constatez les mêmes choses là-bas?
Sur Aix, nous on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de voie cyclable, vraiment, à proprement parler, c'est mal organisé, mais c'est sûr que la cohabitation est quand même assez compliquée.
Irène Margaritis de l'ANSES est grande passionnée de vélo.
Oui, dans nos travaux sur l'activité physique à l'ANSES, on a bien mis en évidence le fait que l'urbanisme joue un rôle très important à la fois dans la
dans la volonté, le goût pour les modalités, enfin les déplacements actifs, donc le vélo. Et on a vraiment appelé au fait que les villes doivent vraiment s'emparer de cette question. Alors c'est très hétérogène, comme ça a été dit, et ce sera certainement un facteur de sécurité déjà et de goût pour le vélo, parce que je pense que beaucoup de personnes en fait ne font pas de vélo pour ces raisons-là.
Éric Fotorino, votre regard
de déménagement.
Éric Fotorino, votre regard de vieux sage sur toutes ces incivilités.
Non, mais si vous voulez, je pense que tout ce qui a été dit là est assez juste. Un cycliste n'aime pas s'arrêter quand il est dans l'effort, et donc il va essayer de trouver le moyen de continuer sa route. Mais au-delà de ça, je me souviens avoir commenté le Tour de France en 2015. Le départ a été donné à Utrecht, aux Pays-Bas. Et là, j'étais fasciné de voir cette éducation au partage de l'espace public. Et donc, vous aviez les piétons, vous aviez les cyclistes, vous aviez les automobilistes, et tout ça fonctionnait de façon très harmonieuse. Donc, je pense que nos villes n'ont pas été conçues comme ça. Là, on est en train d'assister, ici et là, enfin, quand même dans de nombreux cités à ce nouveau partage. Et je crois que c'est cet espace, lorsqu'on apprendra à le partager, qu'on pourra effectivement de nouveau avoir des règles, des normes qui s'imposent à tous, parce qu'effectivement, c'est insupportable. Moi, j'étais cycliste, mais j'essaie autant que c'est possible, et à la fois de respecter le code, mais aussi les piétons ne traversent pas toujours au bon endroit. Mmh. Je les laisse passer s'ils passent. Mais il y a un point qui m'inquiète, parce que il est très souvent comme piéton, j'en ai eu peur, aussi que je n'entends rien. Je m'entends maintenant des rues à double sens. Un sens unique pour les voitures, mais les vélos peuvent remonter dans l'autre sens. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Il faut avoir vraiment le réflexe. Moi, j'ai toujours peur de me faire comme ça télescoper.
Merci beaucoup, Éric Fotorino. Hélas, la liaison est très mauvaise. Je vous laisse filer. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Suzelle nous écrit « Mon problème avec le vélo, ce sont les vitesses. Je ne suis jamais sur le bon plateau ou le bon pignon. On a beau m'expliquer, je n'y arrive pas. » Est-ce que vous pouvez tenter une explication, Jérôme Sorel?
Il faut qu'il y ait une sorte d'intelligence dans les jambes. Non, il faut essayer.
Vous avez bien fait de venir.
On a beau lui expliquer, mais elle n'y arrive pas. C'est peut-être juste une sensation qui n'est pas bonne.
Là, vous ramez, là. Nicolas Tikhomirov.
Je ne sais pas si j'ai une meilleure explication que lui. Ouais, trouver le bon braquet, il ne faut pas que ce soit trop dur, il ne faut pas trop mouliner non plus. Donc, il faut l'adapter en fonction de sa vitesse.
Votre dernier conseil en tant que kiné et ostéo, pour ceux qui veulent se mettre ou se remettre au vélo?
C'est un petit peu comme la course à pied. Alors, c'est moins traumatisant, c'est clair, mais en tout cas, rester progressif et aller sur des petits trajets et reprendre confiance petit à petit, remettre des adaptations tissulaires, mettre du stress mécanique petit à petit, et après ça se passera super bien.
Des adaptations tissulaires?
Oui, c'est petit à petit redonner les bonnes informations à nos muscles, parce que sinon après on a des courbatures, on a mal aux fesses, on a mal de partout, donc il faut y aller progressivement, on fait pas 100 km d'un coup quand on reprend le vélo, quoi.
Jérôme Sorel?
C'est très bien dit.
Vous avez vraiment bien fait de venir ce matin. J'aimerais terminer avec ce message de Dorian qui nous écrit « Notre gendre est parti faire le tour de la Méditerranée à vélo. Il est parti d'Annemasse, il est déjà à Orange. Il a évalué la distance à parcourir à plus de 16 000 km et il s'est donné un an pour le faire. Il a un petit drapeau brésilien derrière son vélo. Il s'appelle Carlo, c'est le garçon le plus gentil au monde. » Voilà, merci à tous d'être intervenus. Éric Fotorino, professeur Irène Margaritis, professeur Martine Duclos, Nicolas Tikhomirov, et merci Jérôme Sorel. Je recommande vraiment Vélo au taf, c'est chez Alternative avec des illustrations d'Ève Coston. Demain, nous recevons le philosophe Alexandre Lacroix pour son livre « Apprendre à faire l'amour ».